France Inter.
Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, des polluants éternels dans l'eau du robinet.
Veolia qui fournit de l'eau à 15 millions de personnes en France a commencé à tester tous ses points de production pour détecter des traces de PFAS. 1% de l'eau testée n'est pas en conformité avec les nouvelles normes, on vous explique.
Et les autres titres, Kevin.
La mort d'O.J. Simpson à 76 ans, acquitté en 1995 à Los Angeles du meurtre de son ex-femme, une affaire qui a marqué l'Amérique tout en nous sommes à Washington. Dans ce journal aussi, des ONG qui saisissent la justice pour que la France suspende toute livraison de matériel militaire à Israël. Gagner des bons d'achat en regardant des vidéos, c'est ce que propose TikTok avec une nouvelle appli en France depuis ce matin.
Et on en parle avec Thomas Romer, c'est le directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Il est l'invité de ce journal.
Et puis on fera le tour des Français sélectionnés pour le prochain festival de Cannes. Ils sont 5 rien qu'en compétition officielle.
Dans le 18-20 ce soir, le Texas et la Californie ont fait sécession. Il n'y a plus que 2 étoiles sur le drapeau. La guerre civile ravage les États-Unis. Une dystopie qui sort en salle demain aux États-Unis, la semaine prochaine en France. Mais est-ce que cela dit que ce pays est mûr pour le chaos? Et c'est ce qu'on va interroger ensemble. Dans le reportage ce soir, nous sommes en Russie où la crue massive change les discours sur Vladimir Poutine. Kevin, dans Sous les radars, vous nous raconterez l'histoire de cet Allemand qui travaille dans une galerie d'art et qui en a profité pour accrocher l'un de ses tableaux. Ça s'est plutôt mal passé. Antoine Malo, dans Le Monde à 18h50, regarde les Ukrainiens enrôlés dans l'armée. Des prisonniers comme qui, figurez-vous, comme les Russes. Et puis Stéphane Jourdain dans la Tech, la première, a rencontré Yann Lequin, l'intelligence artificielle pour Meta. C'est lui, sa voix est rare, on a très envie de l'entendre. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne avec Christophe Béchu, ce soir ministre de la Transition écologique, pour répondre à toutes vos questions.
France Inter.
Il y a près de 30 ans, les images de son procès ont fait le tour du monde.
Orenthal James Simpson, connu de tous sous l'abréviation O.J., il est mort aujourd'hui d'un cancer à Las Vegas. Il avait 76 ans, star du foot américain et acquitté donc en 1995. Acquittement controversé après ce que l'on a appelé le procès du siècle. Il était accusé du meurtre de son ex-femme et de son ami. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir à tous.
Correspondant de France Inter à Washington, il y a eu la carrière sur les terrains de football américain. O.J. Simpson était une superstar, mais on connaît son nom surtout à travers la chronique judiciaire.
Oui, sa carrière, elle commence en 69 par la grande porte. Il est sélectionné en première position. Il signe avec les Bills de Buffalo le plus gros contrat pour un joueur de foot américain à l'époque. 3 ans plus tard, il est déjà le meilleur coureur de l'histoire du sport. Mais effectivement, il reste surtout l'accusé acquitté du meurtre de son ex-femme, Nicole Brown, et de son ami. On est en 95, vous l'avez rappelé. Procès suivi effectivement en direct à la télévision par des millions d'Américains, comme l'avait été déjà sa tentative de fuite en voiture, filmée, elle, par les hélicoptères Los Angeles, 17 juin 94, avant son arrestation. Et puis, il y a le moment du procès où il essaye d'enfiler l'une des preuves majeures. C'est un gant en cuir noir qui a été retrouvé sur la scène de crime. Il est ensanglanté. Et Simpson ne parvient pas à le faire entrer, à entrer sa main à l'intérieur. Il est trop petit. Et ça reste évidemment dans les mémoires des téléspectateurs avec cette remarque d'un des avocats de Simpson au jury. If the glove doesn't fit, you must acquit. Si le gant ne lui va pas, vous devez l'acquitter. Simpson donc a été acquitté. Il sera reconnu coupable au civil 2 ans plus tard. Et puis il aura encore affaire à la justice en 2007, condamné à 33 ans de prison pour un vol à main armée et pour enlèvement. Il passera 9 ans derrière les barreaux avant d'être finalement remis en liberté conditionnelle et de s'éteindre à Las Vegas aujourd'hui d'un cancer.
Sébastien Paour en direct de Washington pour France Inter. Et à l'instant, le père de Ron Goldman a assassiné en même temps que Nicole Brown réagit. Ce n'est pas une grande perte pour le monde, c'est un nouveau rappel de la mort de Ron. Réagit donc Fred Goldman, le père de la victime. On y revient évidemment dans le journal de 19h sur Inter. En France, les premières explications de la procureure après l'agression mortelle au couteau qui a fait un mort et un blessé hier soir à Bordeaux. L'assaillant a lui été abattu par la police. Aucun élément en faveur d'une attaque à connotation terroriste, dit la magistrate, qui confirme que l'altercation serait liée à une histoire d'alcool. L'agresseur a reproché aux victimes de boire alors que c'était l'Aïd, la fête de la fin de Ramadan. 2 enquêtes ont été ouvertes dans cette affaire, dont une sur le tir policier pour lequel l'état de légitime défense est envisagé au vu des premiers éléments, a ajouté la magistrate.
Des décidément pas un jour sans que l'on parle des PFAS.
Les polluants éternels, une loi pour les interdire en partie à horizon 2026, des perquisitions dans des usines qui les fabriquent. Cette semaine, des traces dans certaines eaux de source, ça fait partie du scandale Nestlé Waters. Et donc, dans ce contexte, le groupe Veolia qui annonce ce soir qu'il a commencé à analyser ses propres points de production d'eau potable. Veolia qui en fournit de l'eau potable à 15 millions de Français. Bonsoir Célia Kiré.
Bonsoir Kevin.
C'est une première. Veolia a donc cherché et sans surprise a trouvé des PFAS dans l'eau du robinet.
Oui, Veolia prend de l'avance sur la réglementation car à partir de 2026, l'eau potable devra être contrôlée partout. C'est une directive européenne. La teneur en PFAS sera recherchée. L'industriel a regardé depuis novembre les deux tiers de son réseau. Globalement, la teneur en polluants éternels est faible. Mais dans 1% des cas, l'eau est trop chargée, elle n'est pas buvable. Il faut donc que les collectivités informent les consommateurs. Des travaux seront nécessaires dans une dizaine de sites proches des usines de chimie. Pierre Ribot est le directeur général de la branche eau de Veolia. Pour lui, il faut soit supprimer la source, soit traiter l'eau pour faire baisser ses seuils réglementaires.
Ça peut être, par exemple, fermer une ressource qui serait contaminée, aller chercher de l'eau ailleurs et amener des traitements complémentaires pour revenir à la limite de qualité. Ce n'est pas une fatalité. Les solutions que nous proposons, nous les maîtrisons. Des traitements par charbon actif et des traitements membranaires, là aussi en fonction de la catégorie ou de la typologie des chaînes de PFAS qui sont présentes dans l'eau, pour avoir la meilleure efficacité de traitement et au meilleur coût.
Tout cela non pas pour supprimer totalement les PFAS, mais pour revenir à un taux acceptable. Les élus demandent que les industriels de la chimie responsables de cette pollution paient les travaux sur les réseaux d'eau. En attendant, Veolia continue ses prélèvements avec des laboratoires mobiles. Tout le réseau sera analysé avant le mois de juin.
Célia Kiré, spécialiste environnement de France Inter. Il n'y aura pas de référendum d'initiative partagée sur l'immigration. La demande du parti Les Républicains est rejetée par le Conseil constitutionnel. Les Français sont privés de parole sur l'immigration, estime ce soir Éric Ciotti, le président du parti Les Républicains.
Emmanuel Macron le redit, il ne veut pas d'impôts en plus.
Le chef de l'État a indiqué cet après-midi, je cite, « fermer l'hypothèse d'une augmentation des impôts alors qu'il faut trouver 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour réduire le déficit public », dit le gouvernement. Il l'a dit cet après-midi lors d'un déplacement à Bergerac, en Dordogne, à l'occasion de l'inauguration d'une usine de fabrication de poudre, appelant alors à un effort, je cite, « durable des industriels de l'armement » pour fournir des armes à l'Ukraine. Du matériel militaire, la France en livre aussi à Israël. Très peu hein, par rapport aux États-Unis ou encore à l'Allemagne, mais peu importe le volume. Dans le contexte de la guerre à Gaza, 8 ONG, notamment Amnesty International, saisissent ce soir la justice administrative française pour demander la suspension de toute livraison. Bonsoir Eric Bégala.
Bonsoir Kevin.
Trois référés déposés en même temps et procédure assez inédite.
Oui, c'est un collectif important d'ONG, hein, 8 en tout, qui est à l'origine de cette triple action en justice. Action Sécurité Éthique Républicaine a déposé hier un référé suspension. Amnesty International France et 6 associations emmenées par l'avocat William Bourdon déposent chacune un référé liberté devant le tribunal administratif de Paris ce jeudi. La démarche est unique en son genre. Hein, 3 référés tous en même temps, c'est mettre un coup de pression sur le tribunal administratif pour l'obliger à entrer de plein pied dans des problématiques dans lesquelles normalement les juges ne s'aventurent guère, comme les exportations d'armes. C'est en tout cas ce qu'espère l'avocat William Bourdon.
La bagarre que mènent les ONG, c'est de réinjecter un peu de morale dans des domaines où le cynisme triomphe. Et s'il y a bien un domaine où le cynisme triomphe, c'est le commerce d'armes. Et donc, progressivement, nous, acteurs de la société civile, on a pu obtenir parfois de certains juges qui disent « Mais non, lorsque les droits les plus fondamentaux sont violés, bien sûr que le juge ne doit pas être évincé et ne doit pas rester à la porte du débat public ».
Le ministre des Armées a reconnu que certaines de ces licences d'exportation au profit d'Israël avaient d'ores et déjà été suspendues. On ne sait ni lesquelles, ni quel matériel elles concernaient, ni surtout pourquoi le ministère des Armées a décidé de ces suspensions. Peut-être parce que ses services juridiques ont considéré que de telles livraisons pouvaient bien entraîner la France dans une complicité de crimes de guerre, voire complicité de génocide, puisque la Cour internationale de justice reconnaissait en janvier un risque de génocide à Gaza.
Éric Bégala. Et c'est une petite secousse pour Ursula von der Leyen à 2 mois des élections européennes. Vote sans appel ce matin au Parlement européen pour demander à la présidente de la Commission de renoncer à nommer Markus Pieper, un eurodéputé allemand de son parti, le PPE, comme émissaire chargé des PME. Nomination perçue par ses opposants comme étant la contrepartie du soutien de sa famille politique à une nouvelle candidature à un second mandat. Une affaire qui n'est pas sans rappeler celle de l'américaine Scott Morton. Et ça embarrasse Ursula von der Leyen. Ça malmène aussi ses chances de réélection. France Inter à Bruxelles, Angélique Boin.
Fin février, des eurodéputés de tous bords, à l'exception de ceux de sa famille politique, avaient déjà interpellé Ursula von der Leyen sur son choix, celui d'un Allemand de droite face à 2 candidates, tchèques et suédoises, mieux évaluées lors de la procédure de présélection. Pour un poste à très haut niveau, à la Commission, un grade 15 rémunéré plus de 18 000 euros bruts par mois. Cette fois, c'est un vote cinglant de l'hémicycle qui la déstabilise. 382 élus demandent l'annulation de cette nomination contre 144 et 80 abstentions. Vote non contraignant, mais signal politique très fort après plusieurs semaines de polémiques et de tensions au sein même de son équipe de commissaires. 4 d'entre eux, dont le français Thierry Breton, se sont interrogés dans un courrier sur le manque de transparence et l'impartialité de cette nomination. Sans faire scier néanmoins ni la présidente, droite dans ses bottes, ni son entourage, Éric Mamère, son porte-parole, le martèle lors de ses points de presse.
La Commission a respecté les procédures prévues pour le recrutement de son conseiller pour les PME.
Une affaire qui fragilise von der Leyen et qui s'ajoute aux doutes émis récemment publiquement par le président Macron sur le fait qu'elle soit la candidate la plus légitime pour un second mandat à la tête de la Commission. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Et parmi les sujets de cette campagne européenne, il y a celui de l'énergie, son coût, sa production plus ou moins décarbonée. D'où ce sondage réalisé par la Fondation Jean Jaurès en partenariat avec Engie, présenté aujourd'hui. Une étude menée dans 10 pays européens sur le rapport qu'entretiennent les habitants à la transition énergétique. Les Français n'y sont pas hostiles, Delphine Simon, sauf quand ça touche évidemment à leur portefeuille.
Il n'y a pas de retour en arrière pour les 2/3 des Français interrogés. La transition énergétique est irréversible. Aucun pays n'atteint un tel score. Pourtant, lorsqu'il s'agit de leur pouvoir d'achat, l'inquiétude est forte, explique Gilles Finkelstein à la Fondation Jean Jaurès.
Vous avez davantage d'Européens qui pensent que, y compris pour le pouvoir d'achat, la transition énergétique est plus une opportunité qu'une menace. Et en France, ce n'est pas du tout le cas, puisque vous avez quasiment 2 fois plus de gens qui disent que c'est une menace plutôt qu'une opportunité, et donc c'est sans doute le point de vigilance le plus important.
Autre réticence très française à l'égard des éoliennes, l'irruption du politique dans le débat public influe plus qu'ailleurs sur l'opinion.
On est beaucoup moins nombreux à dire que l'éolien est une énergie propre. Il y a des écarts de 20 points avec les Allemands et même de 40 points avec les Britanniques.
Qui doit agir ? Sans surprise, même s'ils font preuve de scepticisme à leur égard, les politiques, mais aussi les entreprises. Claire Vézan, directrice adjointe chez Engie.
Évidemment, à court terme, la transition énergétique va nécessiter des investissements qui sont importants. Mais quand on regarde le coût de l'inaction, en termes de santé, d'assurance, il est beaucoup plus grand que le coût de ces investissements.
Selon certains économistes, un réchauffement de 2,5 degrés pourrait coûter jusqu'à 1/5 de la richesse mondiale.
Delphine Simon, service économie et sociale de France Inter.
Sans doute, hélas, va-t-elle faire un carton ?
La nouvelle application lancée par TikTok, TikTok Lite, disponible depuis ce matin en France, pour l'instant uniquement sur Android. Le principe, regarder des vidéos ou suivre des comptes rapporte des points qui peuvent ensuite être convertis en bons d'achat utilisables sur Amazon. De quoi inciter ses utilisateurs à passer toujours plus de temps sur leurs écrans.
Et bonsoir Thomas Romer.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Thomas Romer, je vous imagine au bout de votre vie. Plus on reste devant TikTok, plus on gagne des points. Donc c'est de l'argent virtuel à dépenser sur Amazon. C'est le début de la fin, c'est le début de l'ultra-dépendance cette affaire, non ?
Bah écoutez, oui, je vous rejoins un peu dans l'analyse. Je trouve que là, on atteint quand même un système qui pousse un peu toujours plus loin les limites. On voit que c'est un sujet qui est beaucoup discuté en ce moment, parfois même un peu trop, parfois caricaturé. Quand il s'agit de parler d'addiction aux écrans, il y a parfois des exagérations. Mais là, je trouve qu'on atteint quand même un niveau qui est assez préoccupant, surtout quand on sait que potentiellement tous les enfants trouveront forcément des subterfuges pour pouvoir accéder à cet outil.
Pour expliquer aux gens qui nous écoutent, l'interface est très ludique, ça marche un peu comme un jeu vidéo, il y a des objectifs de vidéos regardées, 10 000 points pour un bon d'achat de 1 euro, ça monte extrêmement vite, vous avez 4 000 points si vous restez 25 minutes devant. Est-ce que vous l'avez vu arriver? Et surtout, si ça commence chez nous et en Espagne aussi d'ailleurs pour ce qui est de l'Europe, est-ce que ça veut dire que nous sommes identifiés comme un marché très porteur?
Oui, la France est de toute façon un marché plutôt porteur pour les plateformes. Pas mal de plateformes font depuis très longtemps un véritable, pardonnez-moi l'expression, carton chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. On est un marché très intéressant pour toutes ces plateformes et depuis très longtemps. Clairement, on l'a pas vu arriver. On a beau parler de temps en temps avec TikTok, parce que nous, on essaie de parler avec toutes les plateformes. Cette annonce ne nous avait pas été confiée, mais du coup, en effet, je tombe un petit peu de ma chaise, vous avez raison.
Alors, a priori, c'est uniquement pour les adultes. Ça veut dire qu'ils mettent en place un certain nombre de contournements. Il va falloir produire un document d'identité. On sait très bien que tout cela est parfaitement contournable. Déjà dans le viseur du régulateur européen, menacé d'interdiction aux États-Unis, c'est quoi notre parade? Est-ce qu'on en a une?
Écoutez, en termes de parade, je pense que comme souvent, c'est faire preuve de bon sens. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaie d'un petit peu de répéter aux adultes qu'on rencontre un peu partout sur le terrain lors de nos conférences ou groupes de parole. C'est d'essayer d'inciter les parents à être assez vigilants, sans diaboliser les outils, bien sûr, parce qu'ils font partie désormais du quotidien de leurs enfants. Mais à s'intéresser à leurs pratiques et à savoir mettre, quand il le faut, des interdits. Et là, je pense que clairement, malgré les parades qui ont été imaginées par TikTok, évidemment, vous avez raison, tout ça sera facilement contournable.
Mais un recours juridique, ça existe ou pas? J'allais dire, est-ce qu'on peut interdire un morceau de TikTok? Parce qu'au fond, TikTok Lite, c'est un morceau de TikTok. Donc, est-ce qu'on peut interdire un morceau?
Écoutez, nous, on va rester... En tout cas, non, c'est assez compliqué, mais c'est comme tout dans l'éducation, il y a des choses qui sont autorisées, interdites. Évidemment, les adolescents sont souvent programmés pour franchir les interdits, mais c'est aussi en mettant pas mal de dialogue au sein des familles qu'on peut trouver des parades et le juste milieu. Après ça, nous, on va être, je vous l'avoue, assez vigilants. Et si on observe que des mineurs y ont facilement accès, on n'hésitera pas à fâcher un peu fort.
Thomas Romer, directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, en direct avec nous. Merci beaucoup.
À l'actualité du grand écran maintenant, c'est la joie des cinéphiles à l'idée de retrouver Francis Ford Coppola sur les marches du Festival de Cannes, qui a annoncé sa sélection aujourd'hui. Le réalisateur du Parrain, déjà double vainqueur d'une Palme d'Or, en compétition officielle avec son film de science-fiction Mégalopolis. Face à lui, il trouvera 13 autres réalisateurs, mais seulement 4 réalisatrices. C'est moins que l'an dernier, il y avait 7 femmes en compétition. Bonsoir Corinne Pélissier.
Bonsoir.
En revanche, une belle proportion de réalisatrices et réalisateurs français en compétition officielle et dans les autres sélections.
Et des Français qui font aussi des films américains. Coralie Farja, qu'on avait découvert en 2017 avec Revenge, un film d'horreur en langue anglaise. Aujourd'hui en compétition avec toujours beaucoup beaucoup de sang à l'écran, un casting très hollywoodien. Margaret Qualley, Demi Moore pour The Substance, première sélection canoise qui la propulse directement en compétition. Thierry Frémaux, le délégué du festival, avoue n'avoir pas eu à hésiter trop longtemps après la Palme d'Or attribuée à Julia Ducournau et son film Titane il y a 3 ans.
Peut-être qu'il y a quelques années, un film de genre, un film gore, comme celui de Coralie Farja, on n'aurait pas osé y aller. Là, on ose y aller. Évidemment, il eût été facile d'aller en séance de minuit. Non, on s'est dit, Coralie Farja s'impose là comme une très grande metteur en scène dont on a voulu signaler la présence.
Alors, il y aura du monde sur la route chez les Français, le plus connu, le plus attendu. Au total, ils sont 5. C'est Jacques Audiard, déjà palmé en 2015 avec Dipane, qui revient cette fois avec une comédie musicale sur l'univers des cartels. Emilia Pérez, face à lui Christophe Honoré, Agathe Ridinger. Et un petit nouveau dans la compétition, Gilles Lelouch pour son 4e film, L'amour ouf, avec Adèle Exarchopoulos, François Civil et Raphaël Quenard. C'est une sélection qui reflète assez bien la diversité du cinéma français, avec en marge de la compétition un documentaire de Yolande Zoberman, La Belle de Gaza en résonance avec la guerre. Plusieurs actrices qui passent de l'autre côté de la caméra, Ariane Labed, Noémie Merlan, les nouveaux films aussi de Léos Carax, Alain Guéraudy, Daniel Auteuil, les frères Larieux, et sans doute quelques surprises puisque la sélection n'est pas encore complètement bouclée.
Corinne Pélissier, notre spécialiste cinéma, et sachez qu'une réalisatrice française, il y en aura une demain matin sur France Inter, Louise Courvoisier, qui fait partie de la sélection Un Certain Regard, sera l'invitée d'Inter à 6h20. Cannes, ça commence le 14 mai.
Et merci beaucoup Kevin Dufray, je vous revenais tout à l'heure dans Un jour dans le monde. Vous serez sous les radars, un œil sur le ciel s'il vous plaît.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Élodie Calac, bonsoir, une journée ensoleillée demain.
Oui, bonsoir à tous. Alors patience, hein, le matin quand même, il faudra composer avec la grisaille. Du sud-ouest vers le nord-ouest, le centre-val de Loire, le nord de la Seine et la Lorraine. Beaucoup de nuages bas, des brouillards aussi. Ils se morcelleront au profit du soleil en cours de matinée. Ça restera quand même un petit peu plus nuageux du bassin parisien aux frontières du nord. Des Pyrénées vers la Méditerranée, le massif central, les Alpes et l'Alsace, là le soleil s'imposera dès le matin. Juste quelques brouillards vite oubliés vers le Val-de-Saône et dans les vallées du Massif central. Et toujours du Mistral en vallée du Rhône jusqu'à 50 km à l'heure.
Et une journée très douce.
Le matin, souvent 4 à 9 degrés, un petit peu plus vers les côtes. Et puis l'après-midi, 19 à 23 degrés au nord, souvent 22 à 26 au sud. Samedi, les températures monteront encore d'un cran. Les 25 seront approchées au nord et on atteindra les 30 au sud.
Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France. Vous revenez tout à l'heure après le journal de 19h. Ce soir, dans Un jour dans le monde, on se demande si un jour, justement, la réalité rattrape après la fiction, et si les États-Unis sont mûrs pour la guerre civile, en tout cas comme on le voit au cinéma en ce moment. Nous sommes également en Russie, où les crues font monter une colère anti-Poutine.
Je ne sais pas comment ce barrage a été construit, si l'argent a été volé ou s'il a été conçu selon les normes. Mais si les normes avaient été respectées, je pense qu'il ne se serait pas effondré ce barrage.
Et c'est un reportage signé Sylvain Tronchet. Nous serons en Suède où les fouilles corporelles désormais sont légales sans motif. En Ukraine où on enrôle des prisonniers avec Yann Lequin grâce à Stéphane Jourdain, le pape de l'intelligence artificielle chez Meta qui sera dans la tech la première. Et puis en deuxième heure, c'est le téléphone sonne. Il y a Christophe Béchu avec vous ce soir, ministre de la Transition écologique, pour répondre à vos questions. Allez-y, rien n'est tabou. Nous parlerons bien sûr des récentes conclusions de la CEDH. Est-ce que la France aussi aurait pu être condamnée pour inaction climatique? Où en sommes-nous dans notre transition à nous? Est-ce que nous sommes dans une période de renoncement? Le plan Ecophyto, les zones zéro artificialisation nette, re-réfléchies pour éviter une fronde des mers? Comment lutter contre la sécheresse? Faut-il autoriser partout les bassines? Penser déjà à reculer villages et villes, parfois pour lutter contre l'érosion des côtes. Est-ce que nous avons raison d'ouvrir chez nous une mine de lithium? Est-ce qu'on est meilleur réellement dans nos émissions de gaz à effet de serre? Il y a 1000 sujets, on n'aura pas la place pour 1000 questions, mais on fera de notre mieux. Ça se passe au 01 45 24 7000.